بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Chers frères et sœurs en islam, hier on a commencé à commenter ce verset, quelques passages du verset. Et puis on est parti vers une, on va dire une présentation plus globale, un aspect plus global de la religion et de notre rapport avec Allah Azza wa Jal et du fait qu'il est important de travailler tous les aspects du dîn et surtout travailler en profondeur afin que nos bonnes œuvres soient des bases solides et que nous puissions trouver la fameuse halawatul iman, la douceur de la foi, qui est le résultat de la combinaison entre présence de cœur, amalul qulub, les actions intérieures, et la présence, l'accomplissement des actions qu'Allah nous a demandé de faire. Comme convenu, aujourd'hui on va directement vers le tafsir du verset. On a compris que c'est un verset qui parle de la confiance en Allah. Hier on avait fait le parallèle entre ce verset et « wa iyyaka nasta'in », c'est auprès de toi, ya Allah, uniquement auprès de toi que nous cherchons secours et refuge. Mes chers frères et sœurs en islam, imaginez que je travaille le verset « wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » et que j'arrive à m'imprégner du sens de ce verset, de la puissance, de la lumière, du nour qu'il y a dans ce « ayah » et que lorsque je me réveille pour le tahajjud à 3h du matin, quand je lis Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin et que je répète Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in et je le répète 5 fois, 6 fois, 10 fois jusqu'à ce que des larmes coulent de mes yeux tellement j'ai une conviction sur le Iyyaka na'budu, je me livre à Allah et j'affirme ya Allah, je suis ton serviteur. Parce que dans Iyyaka na'budu, il y a le verbe adorer avec la racine ayn ba et dal qu'on retrouve dans le mot abid, dans le mot abdullah, serviteur d'Allah. Et quand je dis Iyyaka na'budu, j'affirme à mon Seigneur que je suis là pour toi. Ya Allah, je vis pour toi. J'existe pour toi, je respire pour toi, chaque minute, chaque seconde de ma vie c'est pour toi, ma position debout c'est pour toi, ma génuflexion, mon sujoud, ma prosternation, tout est pour toi ya Allah et je quitterai ce monde pour toi pour te retrouver. Imaginez que j'arrive à faire vibrer mon cœur avec Iyyaka na'budu et qu'au moment où je lis Iyyaka nasta'in, je dis à mon Seigneur que ya Allah j'ai besoin de toi. Ya Allah, j'ai besoin de ton aide et parce que c'est toi seul qui peux aider, parce que c'est toi qui dirige ce monde et la création est dans tes mains. Imaginez le niveau de ma salat, de ma concentration, de ma dévotion, de la présence de mon cœur, si je parviens à faire monter cette lumière dans mon cœur au moment de lire ce verset. Et ainsi de suite. Imaginez que nous parvenions à travailler chaque verset de Alhamdulillah Rabbil Alamin et de ressentir cette puissance de foi dans sa lecture. Comment seraient nos salats? Quel bonheur on trouverait dans l'accomplissement de leur salat? Comment est-ce qu'on arriverait à se ressourcer spirituellement à chaque fois que j'accomplis ma salat? Et que la prière de la nuit deviendrait le rendez-vous que j'attends avec impatience chaque jour. Chaque jour, j'attends la nuit suivante pour me présenter devant Allah. C'était le cas des sahaba, des tabi'in, atba'i tabi'in, des grands savants de la Ummah, c'est-à-dire des awliya'ullah, des proches d'Allah. Ils avaient cette relation intime, puissante avec Allah Azza wa Jal. C'est ce que nous recherchons, mes chers frères et sœurs. Et ça, ce n'est pas exclusif à une génération. Ayant parlé des trois glorieuses, des trois siècles, trois générations pour le prophète sallam, mais ces degrés de foi ne leur sont pas réservés. Le haut degré de ilm, c'est pour eux, oui, de connaissances religieuses, je veux dire, c'est pour eux, oui. Mais les hauts degrés de foi, ça peut, je peux prétendre, je peux essayer d'avoir en 2020, en 2030, peu importe l'endroit et peu importe l'époque, c'est la foi en Allah qui est accessible à chacun, à tous, et on peut le développer. Qu'Allah nous accorde cette possibilité. Là où je veux en venir, et c'est ce qu'on essaie de véhiculer depuis plusieurs programmes, c'est qu'on a besoin de revoir nos objectifs à la hausse. Et réaliser que je peux et je dois justement avoir des objectifs spirituels. Et qu'il ne s'agit pas de cumuler 29 ou 30 jours de jeûne et ensuite de passer à autre chose. Non, le but c'est de progresser dans ma foi et dans ma relation avec Allah. Et c'est le moment où Allah ouvre les portes du paradis, où Allah ouvre mon cœur, où je peux me connecter à lui et que le diable est enchaîné et que le nafs est affaibli et que c'est vraiment le moment où je réunis toutes les chances de mon côté pour progresser, qu'Allah me donne la possibilité de progresser. On revient vers le verset. On commence par le Qurtubi, rahimahullah, yaqul, in tanzila bika. Ya Muhammad, shiddah min faqrin aw marad. Sache, ô Muhammad, car le verset est adressé, révélé, est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à une époque où il connaît, il subit des difficultés à Makkatul Mukarrama. Donc Allah Azza wa Jal révèle ce verset à notre prophète alayhi salatu wa sallam qui, on le rappelle, est à Makkah. J'ai oublié de préciser que la sourate Al-An'am est une sourate makkiya et c'est vraiment les sourates qui nous inspirent à notre époque. À notre époque, c'est vraiment les sourates makkiya dont nous avons besoin, sourates révélées à Makkah, parce qu'il y a les bases de foi et ce sont ces bases-là qui nous manquent. Dit que, et le prophète vit des situations d'épreuve. Dit au Mohammed, sache que quoi qu'il t'arrive en termes d'épreuve, de difficulté, pauvreté, faqr, pauvreté, au marad ou maladie, et là je me sens concerné, parce que ce qui est révélé au prophète, il propage aux sahaba, à la umma, et chaque personne est concernée par ce qui est révélé. Donc, s'il nous arrive une quelconque difficulté, si on est éprouvé par la pauvreté ou par la maladie, فَلَا رَافِعَ وَصَارِفَ لَهُ إِلَّا هُ. Le seul qui peut enlever cette difficulté, c'est uniquement Allah, car c'est lui qui envoie, qui crée les situations. Et si Allah t'accorde al-afia, la santé, le bien-être, un retour à la normale, sache que tout ça c'est dans ses mains. Wa fahu ala kulli shay'in qadir. Et on avait, il me semble, expliqué hier que le prophète a vécu toutes sortes d'épreuves et de difficultés. Et c'était là également le modèle prophétique de voir comment est-ce que le prophète réagissait dans les situations d'adversité et d'épreuves. Ibn Kathir rahimahullah commente ce verset et il explique annahu maliku ad-durri wan-naf'i, que c'est Allah seul qui est le maître de ad-dharr wan-naf', que c'est Allah qui est le maître de ce qui peut nous arriver de bien ou de mal, tout est dans ses mains. Wa annahu al-mutasarrif fi khalqihi bima yasha, et que c'est Allah qui prend les décisions concernant tout ce qui se passe dans sa création. C'est lui qui prend les décisions. Et rien ne va à l'encontre de son décret. Ibn Kathir fait un parallèle entre cette explication, ce tafsir, et le doua du prophète que nous lisons normalement après chaque salat. Allahumma la mani alima a'tayt wa la mu'ti alima lima mana't. Oh Allah, si tu as décidé de nous accorder quelque chose, personne ne peut empêcher que ça se produise. Et si tu as décidé de nous priver de quelque chose, personne ne peut nous accorder ce dont tu nous as privé. C'est une conviction que nous devons avoir en Allah, al-khalqu khalqu, que la création, c'est à lui, ça lui appartient, et il dispose de la création comme il le veut. Il y a des sunnah, Allah a créé une organisation, d'accord, pour toutes les choses de ce monde, mais Allah peut aller bien sûr au-delà de ces organisations lorsqu'il prend la décision, que ce soit, on va dire, c'est en rapport avec des choses qui sont surnaturelles ou gigantesques, Allah le pouvoir dessus. Exemple, quand Moussa alayhi salam est pourchassé par Pharaon et il a pris tous les Banu Israël pour les libérer de l'esclavage de Pharaon et les emmène près de la mer, là où Allah lui a demandé de venir. Et que Pharaon arrive avec son armée, Ibn Kathir parle d'une armée dont le nombre de combattants approchait le million. Et que le peuple, les Banu Israël, sont face à la mer. Et que lorsqu'il se retourne, il voit l'armée du Pharaon qui se rapproche. Et qu'à droite et à gauche, il n'y a que des montagnes. Et devant la mer, Moussa alayhi salam garde confiance en Allah. Mais ça, c'est un niveau de yaqin, de confiance, de conviction en Allah, d'un prophète. Et Moussa alayhi salam reçoit l'ordre d'Allah de frapper à Nidrib, bien en sort qu'elle va de frapper la mer avec son bâton. Il connaît la suite de l'histoire. Ben, c'est Allah qui contrôle cette création gigantesque qu'est l'océan. Ça, c'est pour des choses qui nous dépassent. Maintenant, pour des choses plus subtiles et moins, on va dire, impressionnantes, on donnera l'exemple du cœur, le cœur d'un homme, le cœur d'une personne. Et dans les mains d'Allah, un hadith stipule que Al-Quloubou, que les cœurs sont dans les mains d'Allah, yatasarrafu. Le sens du hadith, kamasha, ou alors kaifasha. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir de l'animosité pour vous, et vous agissez correctement, vous faites dua, et Allah change son cœur. Les cœurs sont dans les mains d'Allah. Autant des choses qui sont cachées et petites, comme des sentiments, ou non palpables, des sentiments dans un cœur, ou des choses gigantesques comme un océan, tout est dans les mains, tout est dans les mains d'Allah Azza wa Jalla. Sa'di, rahmahullah, conclut. Enfin, c'est pas qu'il conclut, mais son avis nous permet de conclure le tafsir du verset lorsqu'il dit et que le fait d'avoir cette conviction que c'est Allah qui prend toutes les décisions et que l'ouverture et l'aide ne peut s'obtenir que par lui en l'invoquant, ça fait partie du tawhid, ça fait partie de l'unicité d'Allah. Annahu ta'ala al-munfaridu bi kashfi ad-darra wa jalbi al-khairi wa sarra. C'est lui seul et c'est le sens de wa iyyaka nasta'in. Quand on dit wa iyyaka nasta'in, c'est pas uniquement que nous cherchons de l'aide auprès de toi, non, c'est uniquement auprès de toi que nous cherchons de l'aide, car personne ne peut nous aider si ce n'est Allah. Et As-Sa'di donne d'autres exemples comme une cathédrale de la pauvreté, la maladie, des difficultés de façon générale, mais il parle également de la tristesse, ham wa gham, n'importe quelle tristesse également qui touche le cœur d'un croyant, cela vient d'Allah et c'est Allah seul qui peut solutionner et régler ce problème. On avait posé la question pour sallam sahaba au prophète d'Allah, mais qu'en est-il du chagrin et de la mélancolie, de la tristesse qui soudain s'empare du cœur du croyant? Ça nous arrive des fois d'être envahi par une tristesse qui n'est pas explicable, et le prophète sallam dit que ça fait partie également des épreuves. On peut dire que c'est une épreuve qui est moins lourde, mais quand on est profondément attristé, ben c'est également une épreuve qui vient d'Allah, que le cœur subisse, on va dire, vive cette tristesse. Et donc là aussi, c'est une épreuve, on s'en remet à Allah, et on sait qu'à travers cette tristesse, il y a une récompense divine si on se montre patient. Al-Barawi, rahimahullah, on termine à Sa'di, donc il conclut en disant فَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُ, c'est lui seul donc qui mérite d'être adoré. Et c'est le seul qui mérite qu'on lève les mains devant lui et qu'on l'implore avec espoir. Car implorer une créature, ce serait une réaction totalement erronée. On peut demander de l'aide à quelqu'un pour quelque chose qui est mondain, qui peut être réalisé, d'accord ? Mais avec la conviction que c'est Allah qui prend les décisions, et c'est le seul qui mérite d'être invoqué et en qui on peut avoir de l'espoir, et celui qui ne va jamais nous décevoir. Quel que soit la muhabba et l'amour qu'on a pour une personne, on risque toujours d'être déçu par un être humain, mais jamais on ne sera déçu, et na'oudou billah, je pèse mes mots, jamais trahi par notre Seigneur, car Allah a interdit le volm. Il s'est interdit l'oppression et donc il nous a interdit d'être injuste envers nous. C'est-à-dire Allah n'agit jamais de manière injuste envers ses créatures. Ibn Abbas, là on est dans le tafsir de Al-Barawi, rahimahullah, il a cité les mêmes commentaires, donc on ne reprend pas ce qui a déjà été dit. Mais ce qui est très bien avec le tafsir d'Al-Baraoui, c'est que il va citer le fameux hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, où il explique comment le prophète, alayhi salat wa salam, l'avait enseigné cette réalité de la foi, connexion du cœur avec Allah. Comment est-ce qu'il l'avait enseigné lorsqu'il était enfant, lorsqu'il était petit, et comment le prophète l'avait fait avec douceur, compassion et implication, avec hikma, avec sagesse. Ibn Abbas, radiallahu anhu, ça a été très connu. Il explique qu'une fois, il était avec le prophète, alayhi salat wa salam, et le prophète lui a demandé de l'accompagner sur sa monture. Et alors qu'ils étaient sur la même monture, le prophète a dit à Ibn Abbas, radiallahu anhuma, Ya Roulam, ô mon enfant. Et Ibn Abbas dit, présent, la baie qui a Rasulallah. Déjà, nous voyons, on ne va pas faire le charh, le commentaire du hadith, mais déjà, nous voyons comment le prophète, comment il s'adresse à un enfant. Le prophète donnait de l'importance aux zu'ama, aux chefs de tribu, au moulouk, au roi, soit qui l'envoyait des messages ou des émissaires, mais il donnait de l'importance d'une façon générale à chaque, comme on appelle, ummati, à chaque personne qui fait partie de sa communauté, que ce soit un riche, un pauvre, un homme, une femme, un enfant. Chaque personne comptait pour lui, chaque personne avait de l'importance. Parce que chacun de ces individus faisait partie de sa communauté. Et il avait un devoir de da'wa, de prêche envers ces personnes. Nous devons faire attention à notre sincérité dans notre rapport avec les autres. Et il est parfois humain et logique qu'on va donner plus d'importance à quelqu'un, astaghfirullah, qui a de l'importance dans la société, et peut-être moins d'importance à quelqu'un qui ne pèse pas aussi lourd. Et Allah pardonne mes termes, parce que une personne peut peser très lourd dans la balance de la société mais n'avoir aucune valeur pour Allah, et une personne peut être pauvre, démunie, totalement anonyme dans notre société et avoir un tel amour pour Allah qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Et on citerait l'exemple de Bilal ibn Rabah radiallahu anhu, qui était dénigré, maltraité, insulté, torturé par le Quraysh, mais qui était aimé par Allah parce qu'il n'arrêtait pas de dire Ahad, Ahad. Il clamait et proclamait l'unicité d'Allah, Azza wa Jal. Donc le Prophète s'adresse à cet enfant, Ibn Abbas, et l'interpelle par des paroles qui sont des paroles très douces. Ô mon enfant. Ibn Abbas répond, présent au prophète d'Allah. Et on peut retenir, j'ai dit qu'on n'allait pas commenter le hadith, mais là c'est même pas un commentaire, ce sont des paroles de ulama tarbiyah, les savants de l'islam qui ont écrit sur l'éducation. Il semble qu'il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, subhanallah. Il dit qu'à partir du moment où un adulte montre du respect pour un enfant, il y aura un retour de respect. Si moi, en tant que papa, en tant que professeur d'école ou de madrasa, je dénigre l'enfant ou je l'humilie devant ses camarades ou devant ses frères et sœurs, je ne lui montre et ne lui témoigne aucun muhabba, aucun amour, aucun attachement et aucun respect, il ne faut surtout pas s'attendre à un retour de respect de cet enfant. Il aura peur, ou alors il va bien agir parce qu'il n'y a pas le choix, mais le jour où il pourra sortir des limites, il le fera. Mais si on est respectueux envers ses propres enfants, on agit avec compassion, ben il y aura un retour de respect. Donc, c'était une petite parenthèse. Il dit à Ibn Abbas, Yahfadillah, Yahfadouk, Yahfadillah, Tajidou Amamak. Protège la religion d'Allah. D'accord ? Là aussi, hein, ça nous permet de comprendre que le simple fait de connaître l'arabe ne suffit pas pour comprendre les textes. Yahfadillah, on l'aurait traduit par protège Allah. Na'oudzubillah. Yahfadillah, ay, Yahfad din Allah. Protège la religion d'Allah. Et là également, je l'ai traduit instinctivement par protège, mais ça veut dire préserve. Protège, dans le sens de préserve la religion d'Allah, c'est-à-dire tu le mets en application scrupuleusement et tu seras sous la protection d'Allah. C'est ce que le Prophète dépose comme yaqin, comme conviction dans le cœur de cet enfant. Ô mon enfant, pratique la religion. Sois assidu dans tes prières, dans ton engagement, dans tes devoirs envers Allah Azza wa Jal, et Allah te protégera. Vous savez, un enfant a besoin d'être rassuré. Un enfant a besoin de cadre, oui. Ça, hein, en tant que murabbi, éducateur et professeur, on a bien compris qu'il faut qu'il y ait un cadre et un règlement, ainsi de suite. Oui, mais il faut savoir qu'un enfant a besoin d'être rassuré. Il a besoin de se sentir protégé. Et la meilleure protection qu'on peut inculquer à un enfant, que celui qui te protégera vraiment, c'est pas le papa, c'est pas le grand-père, ni l'oncle, ni le professeur, ni peu importe, ni le garde du corps, hein. Ça peut être un enfant de ministre ou de dirigeant. Non, celui qui te protégera réellement, c'est Allah. Et si tu as la protection d'Allah, tu es protégé contre toute la création et contre toutes les personnes qui peuvent te vouloir du mal. Et comment obtenir la protection d'Allah? Protège le dîn d'Allah, c'est-à-dire pratique. Sois un musulman sérieux, impliqué, assidu, pratiquant, et tu auras la protection d'Allah. Cet enfant qui grandit avec sa conviction, je vous assure, il n'y aura pas besoin de crier avec eux, va faire ta salah, est-ce que tu as fait tes ablutions, est-ce que tu as lu ton Coran ce matin, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu n'as pas fait ça, est-ce que tu n'as pas oublié. Non, il n'y aura pas nécessité, parce que l'enfant sait que si je pratique mon dîn, j'ai la protection de mon Seigneur. Tout un programme, hein, je vous assure, subhanallah, qu'Allah nous donne la possibilité d'avancer dans ce sens et de comprendre toute la psychologie de notre prophète et la sagesse dans ses paroles. C'était vraiment le modèle. Le modèle quand il était avec des chefs de tribu, mais le modèle avec des enfants, le modèle quand il voulait éduquer une personne, c'était vraiment, c'est notre source vraiment d'inspiration. Protège la religion d'Allah et Allah sera toujours auprès de toi. Et là aussi, ça renforce, ça crée le lien entre l'enfant et Allah. Ça renforce ce lien et l'enfant comprend qu'est-ce qu'il y a comme échange. J'adore mon Seigneur, Allah m'aime. J'aime Allah, il va m'aimer. Je l'adore et Allah va me protéger. Je l'obéis, Allah va guider mes pas. Je suis ses recommandations et je m'éloigne de ses interdits. Allah sera toujours là pour moi et avec moi. L'enfant qui grandit avec ses paroles, subhanallah, on va dire que ce sont les graines de taqwa qu'on a mis dans son cœur. Ikhwani akhawati fillah, un enfant ou un élève, on ne l'éduque pas bil'unfi wa bishiddati. On ne va pas l'amener vers le droit chemin avec des méthodes dures, avec des paroles blessantes et parfois même, excusez-moi, avec de la violence. Je ne parle plus de violence verbale, maintenant je parle de violence physique. Wala hawla wala quwwata illa billah. On retrouve encore des parents qui violentent leurs enfants, qui ont des comportements inadaptés. S'il y a une bêtise ou il n'a pas fait quelque chose, il y a un manquement, il y aura une claque, il y aura un coup de bâton, un coup de fouet, un coup de savate. À la créole, on dit un coup de savate, hein, on aime ça. Hein. Un coup de ceinture, ça aussi c'est un peu de chez nous. Et ainsi de suite. Ikhwan, ikhawat, fillah, je vais peut-être choquer beaucoup de personnes parmi ceux qui vont écouter. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son rôle de prophète, dans son rôle de père de famille, dans son rôle d'époux, de mari, n'a jamais violenté, n'a jamais eu des propos ni un comportement violent envers quiconque. Le sahaba témoigne et ses épouses témoignent que le prophète n'a jamais frappé une personne, jamais de sa vie. Je ne parle pas de Badr et de Uhud, là c'était des situations de guerre où l'ennemi, ou comme on avait vu hier avec la bataille des coalisés, où les ennemis veulent brûler Médine. Donc là c'est normal qu'il se défend, d'accord ? Mais dans des relations ordinaires, jamais le prophète ne s'est montré violent envers quiconque. Et le prophète avait des enfants. Si le prophète n'a jamais frappé ses enfants, si le prophète n'a jamais frappé son épouse ou ses épouses, pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'un musulman qui se dit pratiquant ne prend pas cet aspect de la prophétie, du modèle prophétique, en étant bienveillant, en montrant de la bienveillance envers son prochain? Ça fait partie de la uswatun hasana, de la sunna que nous devons mettre en application. Également dans l'éducation, dans les maktab. Je pense que ça c'est général. À une époque, on a eu l'occasion d'échanger avec des amis étudiants en Afrique, en Asie, je parle de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh. En Afrique, c'est francophone et anglophone. Et des amis des pays d'Afrique du Nord, le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, ainsi de suite. à La Réunion aussi. Et on se rend compte que beaucoup d'enfants disent que, ben, à une époque, hein, ça remonte, hein, voilà, quand ils ont des professeurs qui leur enseignent la religion, des fois, c'est, voilà, c'est avec beaucoup de sévérité. Et certains témoignent même qu'ils ont eu des coups et tout, et c'est pas là la méthode prophétique. Ce n'est pas là la méthode de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on accepte, hein, que la da'wa ilallah doit se faire par la hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, avec sagesse. Et que le prophète Moussa, pardon, alayhi salam, avait reçu l'ordre d'Allah azza wa jal lorsqu'il est allé voir Pharaon, Moussa et Haroun ont reçu l'ordre, faqoula lahu qawlan layyina, de lui dire des paroles douces, correctes, afin qu'il, peut-être qu'il reviendra vers le droit chemin. Si on a conscience que dans la prêche, dans la da'wa, il faut faire preuve de compassion et être bienveillant, pourquoi est-ce que dans l'éducation de nos enfants ou de l'enseignement des enfants dans les madaris, dans les makatib, on agit de façon différente? Ce serait totalement incohérent, alors que l'éducation fait partie de la da'wa et que dans l'éducation, on a affaire à des, ce qu'on appelle des ma'asoum, des innocents, des petits, des enfants qui ont besoin de nous, qui sont là parce qu'on peut leur apporter quelque chose. Des enfants sur qui on a une autorité. Et donc, agir d'une autre façon que la sagesse, la bienveillance, c'est contraire à l'enseignement prophétique. Et on dira ce qu'on voudra, hein. Mais quand un éducateur se montre violent, il est en train de montrer sa faiblesse et sa frustration parce qu'il n'arrive pas à faire passer le message. Et donc, il réagit de cette façon. Ou alors qu'il vit lui-même un cumul de frustration dans sa vie, ça peut être familial ou professionnel ou autre chose, et que du coup, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est quoi cette goutte d'eau qui fait déborder le vase? C'est quoi cette expression complètement incohérente? Que voilà, si on a eu affaire à notre enfant qui a eu une mauvaise note à l'école ou autre chose, parce que j'ai eu une dure journée au travail et que j'étais obligé de me contenir parce que le problème venait de mes supérieurs ou de mes collègues, je pouvais rien dire. Quand j'ai quelqu'un qui est sous mon autorité et qu'il y a eu un petit manquement, je vais me défouler, me décharger sur lui. Ça c'est du dhulm. Ça, c'est de l'injustice. Et il y a des comptes à rendre à ce propos. Si je reçois un élève qui ne connaît pas sa leçon et je déverse ma colère sur lui parce que j'ai une dure journée ou un début de journée qui était calamiteux, c'est du dhulm, c'est de l'oppression, il y aura des comptes. Soit j'agis de cette façon parce que moi-même je suis frustré et c'est une injustice totale parce qu'il ne m'a rien fait, il est là parce qu'il a besoin de moi, ou alors j'agis de cette façon parce que je ne peux pas faire autrement, ben là c'est une injustice aussi et c'est une preuve que peut-être que je suis en train de faire quelque chose qui me dépasse et j'ai besoin d'aide moi-même pour mener à bien ma mission d'éducateur ou d'enseignant ou savoir comment être parent et comment agir avec respect envers ceux qui sont sous notre autorité. Et Ikhwan et Akhawat et Fillah, j'aimerais qu'on retienne ce message. Le prophète m'a dit qu'il ne fait pas partie de nous ceux qui n'ont pas de la compassion pour les petits. C'est la même chose dans les mosquées, hein, quand on a des enfants qui parfois sont un peu turbulents, un peu perturbateurs. Et là, je rebondis sur le post magnifique qui a été écrit par Cheikh Shaukat Limbada. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont pu lire. Si ce n'est pas le cas, recherchez le nom que je viens de citer. Il écrit une parole, c'était parfait. Enfin, parfait non, enfin, la perfection n'est pas humaine. Il a tout dit. Et c'est vraiment ce qu'il y avait au plus profond de notre cœur. Des fois, on a des enfants qui viennent à la masjid et voilà, ça reste des enfants. Et s'il y a des adultes qui les ont recadrés trop sévèrement, ça peut créer un traumatisme, j'allais dire une frustration. On est au-delà de la frustration, un traumatisme. Et l'enfant ne veut plus aller à la masjid. Tout comme il y a eu des jeunes qui disent que oui, on a eu un molissable très sévère, mais ça nous a servi. Ah bon? C'est-à-dire que c'est parce que tu te prenais, excusez-moi, des coups de bâton peut-être, ou on te tirait les oreilles. Après, hein, on ne se focalise pas sur l'enseignement religieux. Hein. En France, il y a 40, 50 ans, c'était pareil. Hein. On mettait au piqué, il y avait le bonnet d'âne, il y avait le bâton, le prof qui frappait. Après, c'était interdit. C'est-à-dire que dans toutes les cultures, il y a des fois où l'homme ne maîtrisait pas la façon de véhiculer un message aux petits, aux personnes qui étaient dans l'apprentissage. Donc, s'il y a des gens qui disent que oui, mon molissable a été très sévère, donc c'est pour ça que maintenant, comme il dit en créole, maintenant j'avance droit. Maintenant j'avance dans le droit chemin et tout. Oui, mais il t'a inculqué la religion avec une telle, une telle rigueur, d'accord, avec autant de sévérité, mais c'est peut-être pour ça aussi que quand tu pratiques sans comprendre, excusez-moi, mais peut-être que tu as hérité d'une pratique qui a été peut-être imposée entre guillemets de force et dans laquelle tu ne trouves pas de douceur de foi. Alors que s'il t'avait pris comme le prophète sallam, en te rappelant l'importance du lien avec Dieu, peut-être que dans tes prières, tu aurais trouvé un peu plus de dévotion, d'amour d'Allah. C'est-à-dire que la façon dont on prêche et dont on enseigne, ben on verra les fruits dans la qualité du amal, dans la qualité de la pratique et dans l'éducation de nos enfants, c'est de l'amour, de la compassion et de la bienveillance. On verra le résultat quand ils vont grandir, ce seront des personnes, de très belles personnes. Et nous souhaitons que nos enfants et que nos élèves soient de très belles personnes. Qu'Allah Rabbul Izzah guide nos cœurs vers ce qui est mieux pour nous-mêmes et pour nos enfants, pour nos élèves, pour l'éducation de la Ummah, et qu'Allah nous permet de nous imprégner du uswatun hasana, du modèle prophétique, donc de l'enseignement de Prophète sallam dans toutes les facettes de la vie, de la religion, mais également des relations avec les enfants, dans les relations avec ceux qui sont dans l'apprentissage, afin que nous soyons dignes de ce modèle prophétique. Oma tawfiqi illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullah khairan.